Alors, je vais commencer par Yen, qui est peut-être le film le moins facile d'accès et qui est peut-être, vous l'avez vu, hein, qui peut être un film assez, de prime abord, un peu complexe quand on l'approche, quand on le découvre, un peu complexe à montrer à des étudiants. Pourquoi? En tout cas, à des lycéens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué, déjà, on va pas se mentir, hein, on n'est pas habitué à voir beaucoup de cinéma africain, à moins qu'on en soit spécialiste, mais même moi, ça n'est pas spécialement mon cas. Et puis surtout, le film, formellement, vous l'avez remarqué, est extrêmement baroque. Sa théâtralité peut désarçonner, un petit peu déboussoler. Mais ça n'en reste pas moins un film extrêmement riche, très très gras au sens riche, extrêmement riche à analyser. Alors comme vous le savez, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, et c'est ce qu'on va se passionner à faire. Alors comme vous le savez, c'est une adaptation de Djibril Diop Mambéty, d'une pièce qui s'appelle La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, et qui a été écrit dans l'après-guerre en Europe centrale, et qui racontait le retour, d'une vieille femme expulsée de son village dans sa jeunesse, devenue richissime, riche à milliards, plus riche que la Banque mondiale. Ça, c'est un argument qui sera repris par Djibril Diop Mambéty, pour finalement en fait demander vengeance en obtenant la tête de son premier amour, qu'il avait fait juger lors d'un procès inéquitable. Cette trame, Djibril Diop Mambéty va la reprendre in extenso et l'adapter, tout simplement, en fait, la transposer dans le Dakar des années 90, qui n'est pas n'importe quel Dakar, qui n'est pas le Dakar et qui n'est pas le Sénégal et qui n'est même pas l'Afrique noire, parce que le film commence en parlant de nous d'Afrique, donc pour insister sur la dimension plus continentale de son propos, mais donc qui n'est pas n'importe quel Dakar. Le Dakar de 1990 et même des années 80, le film date de 92, c'est un Dakar qui est revenu un peu de l'optimisme de l'indépendance, qui n'a abouti qu'à des promesses brisées. Par exemple, ça n'est pas tout à fait le Sénégal d'un autre cinéaste qui est Ousmane Sambet, qui est un Sénégal beaucoup plus pétri d'espoir. Ici, on est vraiment dans l'idée qu'on va parler d'une Afrique, de ses difficultés économiques, de la corruption, mais aussi de la responsabilité de son propre sort. Et c'est pourquoi, en fait, de menus détails vont venir modifier cette trame originale de la pièce, donc La visite de la vieille dame, pour vraiment insister beaucoup plus, encore beaucoup plus fermement chez Djibril Diop Mambéty que dans la pièce originale, sur la responsabilité des villageois. Alors évidemment, la pièce originale le faisait déjà, mais chez Djibril Diop Mambéty, vous allez voir que tout le récit, en vérité, s'articule en direction non pas d'une déresponsabilisation du personnage principal qui est Dramane Dramé, donc celui, vous savez, ce premier amour que cette vieille dame vient récupérer, dont elle exige la tête et le sang. En fait, vous allez voir que le film va vraiment insister pour que la responsabilité soit beaucoup plus collective et sociale que simplement dans les mains de Dramane Dramé. Et c'est comme ça, en fait, que le film va nous intéresser. C'est comme ça que il va construire un propos que je qualifierais de très cruel pour son propre pays et très lucide. Mais c'est évidemment ce qui est passionnant. Alors, évidemment, je vous disais tout à l'heure, par sa forme et par sa grandiloquence, sa théâtralité, cet aspect extrêmement baroque, le film peut vraiment déboussoler. Et en même temps, vous allez voir, c'est un film qui transpose, mais qui transpose sous l'angle d'une espèce de comédie bouffonne qui emprunterait à beaucoup de sources très générales, qui vont du western à la tragédie grecque, sans pour autant mimer le cinéma des autres, ou un quelconque mondialisme formel de festival. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, et c'est ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il essaie vraiment de trouver son propre style. C'est vraiment un film qui n'est pas infusé de ce que font les autres. C'est vraiment un film extrêmement personnel. D'ailleurs, Djibril Diop Mambéty n'a pas fait tant de films que ça. C'est quelqu'un qui avait besoin d'un temps extrêmement long d'infusion, justement, de son propre travail. C'est un travail qu'il a développé pendant 10 ans. Il n'a fait que deux longs métrages. Un premier en 1973 qui s'appelait Tuki-Buki. Et puis ce deuxième, qui est en fait une espèce de prolongement de Tuki-Buki, avec à peu près les mêmes personnages qui auraient vieilli, et dont il a changé les noms. Mais donc il y a quelque chose de très intéressant dans cette façon de ne pas vouloir en fait faire un cinéma qui ressemblerait aux autres, et surtout dans cette façon d'arracher le cinéma africain à cette idée, à cette espèce de réalisme social auquel il restait attaché. Réalisme social du cinéma africain lui-même, mais aussi pourquoi pas parfois d'un cinéma européen qui irait filmer l'Afrique en l'obligeant à rester dans cette espèce de rapport très frontal à la réalité, jamais déformant, duquel Djibril Diop Mambéty a vraiment voulu sortir. C'est-à-dire que en affirmant quelque chose de très artificiel, de très théâtral, de très baroque, de très chantilly, en fait, dans le jeu, mais aussi dans la mise en scène, en fait, il a vraiment voulu arracher le cinéma africain au documentaire et à toute forme de naturalisme. C'est-à-dire qu'il a vraiment voulu lui doter une, le doter d'une, en tout cas son propre cinéma, hein, le doter d'une identité très très forte. Une fois encore, pour l'arracher à ce réalisme, mais aussi pour l'extirper des puissances d'une mondialisation empoisonnée. J'aime bien la façon très intelligente dont le film, parlant de mondialisation empoisonnée, vous l'avez vu et on va y revenir tout au long de notre analyse, l'affirme aussi dans sa forme. C'est-à-dire que là où d'autres cinémas au pluriel, pas forcément africains d'ailleurs, vont vraiment essayer de répondre à des codes et des exigences festivalières pour aller à Cannes. Je vous dis une bêtise, c'est absolument incomparable, mais le cinéma roumain, par exemple, on lui a beaucoup, dans les années 2000, reproché de ne faire que des films d'auteurs de type et de format cannois. Ben, je trouve que Djibril Diop Mendéty n'a absolument pas prêté le flanc à ce type de procès. Djibril Diop Mendéty, c'est quelqu'un qui fait un cinéma qui lui est propre, justement pour échapper à toute forme de mondialisme et de mondialisation. Et c'est bien justement le sujet du film. C'est-à-dire que tout cet arsenal formel qu'il va déployer, et qui en fait vient se tramer avec le propos du film, puisque c'est un film qui ne parle que de mise en scène, que de surjeu, que de performance, tout cet arsenal-là vise aussi à affirmer que le cinéma africain peut se réinventer dans des formes extrêmement exubérantes. Et je trouve ça passionnant. Et en fait, je trouve ça passionnant, et on va le voir dès le début. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas vous montrer l'ouverture. Mais je vais quand même vous montrer un extrait assez long qui est au début et qui est l'annonce qui en fait commence avec deux annonces. La première, c'est que la mairie a été saisie par les autorités et qu'on est en train de la dépouiller de ses derniers bureaux. La deuxième, c'est que, coexistante avec cette première annonce, en fait, on annonce le retour de Lingiri Ramatou, qui est donc cette fameuse vieille dame transposée de la pièce initiale, qui revient après une vie de prospérité pour, imagine-t-on, peut-être venir se réinstaller à Colobane, cette petite ville qui existe, hein, c'est un quartier, en fait, c'est une espèce de ville de banlieue de Dakar, une ville assez pauvre, un quartier d'où vient d'ailleurs Djibril Diop Mambéty, et qui, tout le monde espère, revient pour potentiellement investir et refaire fleurir Colobane. En tout cas, parce que vous allez voir que Colobane est une ville qui est restée, en fait, dans une espèce de modestie et de simplicité, pour ne pas dire d'indigence, assez intemporelle. On est donc dans le cadre d'une espèce de western qui espère d'un coup qu'un Deus ex machina, qu'un dieu, une divinité comme ça, plus riche que la Banque mondiale, donc Lingéré, puisse en faire une espèce d'oasis de prospérité. C'est donc sur la base de ces deux annonces-là qu'on va lancer le film. Et puis, ce qui m'intéresse évidemment, c'est ce qui va se passer après. Vous allez voir qu'en vérité, je vais vous demander de prêter attention dans cette séquence à la façon immédiate, hein, dont tout dans le film prête à faire spectacle. À la façon dont toute prise de parole, dont toute intervention de personnage, à ce moment du film, n'est qu'un spectacle, n'est qu'une performance, n'est qu'un show, où tout est pupitre, tout est amphithéâtre, tout est scène de théâtre. Pourquoi? Évidemment, je vous y répondrai. Je vais donc demander à Emeline de nous envoyer le premier lien du film, sur lequel je reviendrai en détail avec vous. C'est donc l'extrait 1 qui n'est pas tout à fait au début, mais qui commence à peu près à 7 minutes. Il dure une dizaine de minutes. Alors, ce qui m'intéresse ici et pourquoi je lance le film à ce moment-là, c'est évidemment parce que je vais le lancer au moment où on apprend l'arrivée prochaine de Lingiri Ramatou. Il y a d'abord une première chose qui est très intéressante dans ce début de film, pour ceux qui s'en souviennent, qui est un début de film très sec, où il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on découvre tout simplement Dramane Dramé dans son épicerie, avant, hein, donc ces extraits-là, et puis les villageois très pauvres qui s'habillent avec des sacs en toile de jute, je crois que ce sont des sacs de riz en fait qu'ils adaptent, tout ça, et qui est en fait la volonté de présenter un Dakar et à travers, enfin, du moins une Colobane, et à travers Colobane Dakar, et à travers Dakar le Sénégal, et même toute l'Afrique noire, hein, Djibril Diop Mambéty le revendique, de présenter une espèce d'Afrique d'avant la civilisation, une espèce de décor de western. Et Djibril Diop Mambéty, d'ailleurs, ne s'en est jamais caché, Yen est le western qu'il avait toujours voulu faire. Toukibouki avait déjà un aspect un peu western, c'était un espèce de road trip, mais là c'est vraiment le western qu'il voulait faire, c'est-à-dire un décor désertique. Et puis surtout l'idée d'un monde immémorial d'avant la civilisation, mais qui serait certes un monde pauvre, certes un monde non prospère, certes un monde toujours à deux doigts de basculer dans la sauvagerie, hein, c'est aussi ça le western, c'est quelle est la frontière entre la civilisation et la sauvagerie. Mais c'est aussi aux yeux de Djibril Diop Mambéty à ce moment-là du film, celui vraiment du tout début, c'est aussi un monde humble, c'est-à-dire d'une simplicité qui n'infecte personne et qui permet à cette petite société, cette petite communauté de Colobane, eh bien, de vivre simplement et de vivre à peu près harmonieusement. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on annonce l'arrivée prochaine de Lingiri Ramatou, qui, pour souvenir, pour vous rappeler à peu près le contexte, est censé être plus riche encore que la Banque mondiale. C'est-à-dire que revient à Koloban, qui est une ville très pauvre, une personne riche à milliards, capable non seulement de réinsuffler à l'économie cette vitalité qu'elle n'a jamais eue en fait, ou du moins on le comprend à un moment, ils disent Koloban a été une ville prospère et elle ne l'est plus du tout. Bah, en tout cas, ils attendent le retour de ce personnage qui pourrait faire revivre, ressusciter Koloban. Et qu'est-ce que ça crée en fait? Qu'est-ce que ça crée l'annonce, le parfum seulement, avant même l'arrivée de Lingiri Ramatou, qu'est-ce que crée le parfum de la promesse de l'argent? Eh bien, ça crée en fait une espèce de contamination. En fait, aux yeux de Djibril Diop Mambéty, la contamination, évidemment, et c'est pas lui qui l'invente, le virus, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand l'argent manque, mine de rien, bon, bah, l'argent manque et la société n'est pas prospère, mais la société est harmonieuse. Dès que l'argent ou le parfum de l'argent se fait sentir, qu'est-ce qui se passe? C'est bien là où commence l'extrait. Ce qu'il se passe, c'est que les notables de la ville se réunissent. Le maire, vous l'avez vu, mais aussi un professeur, mais aussi Draman Dramé, qui est en quelque sorte le représentant des commerçants, on pourrait dire, hein, de la ville, puisqu'il tient une épicerie à laquelle tout le monde se rend. Et puis on comprend quelques hommes qui forment comme ça une espèce de conciliabule, et qui sont en vérité les notables de Koloban. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès qu'on sent l'argent, dès qu'on sent la rumeur du retour de Lingiri Ramatou, eh bien immédiatement Koloban se met à se mettre en scène. Immédiatement Koloban cède aux puissances de la facticité. Parce que qu'est-ce que c'est que cette réunion? Et d'ailleurs cette réunion, vous avez vu, elle a lieu dans des ruines qui forment une espèce d'amphithéâtre. Qu'est-ce que c'est que cette réunion? Eh bien en fait c'est un amphithéâtre, mais qui se cache pour l'instant aux yeux du public. Il y a du public déjà, et il y a toujours du public dans le film. À chaque fois, il y a toujours du public. Ici, c'est le gueux, vous savez, cette espèce de vagabond qui vit en marge de la communauté, mais qui les regarde, mine de rien. S'il les regarde, c'est qu'on peut organiser un spectacle. Et quel est le spectacle qu'on organise? C'est évidemment la fête qu'on va inventer, et puis le discours, la cérémonie qu'on est en train de répéter pour séduire Lingiri Ramatou. Et pourquoi c'est une cérémonie et pourquoi à ce moment-là, Djibril Diop Mambéty nous montre déjà que Koloban est en train, à la seule odeur de l'argent, de céder aux puissances du factice et de l'artifice. Pourquoi? Parce qu'en vérité, personne ne se souvient de qui est Lingiri Ramatou, à l'exception de Draman Dramé. Et d'ailleurs, puisqu'il est le seul à se souvenir de Lingiri Ramatou, eh ben on va confier, comme ça, d'un coup, par un petit conciliabule et en claquant des doigts, on va confier à Draman Dramé le futur poste de maire. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte évidemment que ce maire, c'est-à-dire le dépositaire de la représentation collective de Koloban, va tout simplement décider, juste avec la rumeur du retour de Lingiri Ramatou et l'odeur de l'argent, de confier son pouvoir à quelqu'un d'autre, avec l'adhésion de tous. Et d'ailleurs l'adhésion de tous qui scande le nom de Draman Dramé. Pourquoi? Parce que Draman Dramé devient synonyme, lui, des milliards qui coulent à flot, des millions qui coulent à flot sur Koloban. Puisque Draman Dramé connaissait Lingiri Ramatou, eh bien on va mettre Draman Dramé à la tête de Koloban pour que Lingiri Ramatou et envie de déverser ces milliards chez nous, ou au moins de revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça montre qu'en cédant aux puissances du spectacle, en répétant une petite scène et une cérémonie en vérité qui n'a aucune consistance, eh bien cela montre que la politique de Koloban, et pourquoi pas, puisque c'est une métaphore du Sénégal, la politique de cette époque-là, de ce pays-là, n'est qu'un simulacre. La politique n'est que corruption et la politique n'est que spectacle en vérité. La politique n'est qu'une scène, n'est qu'une mise en scène, n'est que pupitre. Et d'ailleurs, vous remarquez ici, et vous le remarquerez pendant tout le film, en vérité, les personnages, à partir du moment où Lingiri Ramatou est annoncé et où elle revient, les personnages ne sont plus que dans la mise en scène d'eux-mêmes, ils ne sont plus que dans la performance. La parole n'a plus rien à dire, elle n'est là que pour performer. Elle n'est là que pour faire des discours cérémonieux, annoncer des choses qui, en vérité, n'ont aucune consistance. Rappelez-vous, on est en train de se réunir, non pas pour le retour de Lingiri Ramatou, mais pour le retour éventuel des milliards de Lingiri Ramatou. Personne ne se souvient de qui est Lingiri Ramatou, personne ne se souvient de pourquoi elle est partie, et même Draman, qui s'en souvient, ne le dit pas. Draman n'est pas honnête non plus à ce moment-là du film. Draman accepte ce rôle de maire, accepte d'être l'espèce de levier qui permettrait de faire retrouver à Koloban sa prospérité, et accepte en fait de participer au simulacre général. Nous sommes dans une société, nous montre Djibril Diop Mambéty, qui n'est qu'une scène. Et cette scène-là est la répétition de la cérémonie censée amadouer, censée séduire Lingiri Ramatou. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'extrait? C'est là qu'il devient très intéressant et toujours aussi western. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que dans cette espèce de monde où, là je parle de Koloban, hein, dans cette espèce de monde qui est en fait laissé à la marge de la prospérité, laissé à la marge du train de l'économie mondiale, eh bien tout le monde s'attend à ce qu'elle arrive par la route. Donc, on prépare une cérémonie, on prépare une haie d'honneur, cérémonie toujours, spectacle toujours. On prépare une haie d'honneur à Ngiré Ramatou que l'on attend, dont on attend qu'elle débarque par la route, probablement dans une belle voiture. Eh bien non, Ngiré Ramatou va arriver par le train. Et pourquoi ça surprend tout le monde et ça prend tout le monde de court? Parce que ce train, qui est en vérité la métaphore du train de la prospérité et de l'économie en marche, de laquelle Colobane est laissée à la marge, ce train n'avait pas l'habitude. En fait, ce train ne s'arrêtait jamais à Colobane. Pourquoi? Parce que l'économie ne s'arrêtait pas à Colobane, parce que l'industrie a complètement périclité et que rien ne se passe à Colobane. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Ngiré Ramatou possède ce train, comme elle possède en vérité tout. Elle est tellement riche qu'elle possède tout. Mais donc, elle possède aussi le pouvoir, la force, mais surtout le pouvoir, quand on a de l'argent, le pouvoir, c'est ce que nous montre le film, elle possède le pouvoir d'arrêter le train au point qui lui convient. Et surtout, elle possède le pouvoir de montrer à cette petite ville de Colobane qui va tirer les ficelles du récit. Qui écrit le scénario et combien leurs petites mises en scène sont vouées à l'échec dans la mesure où Lingéré Ramatou a toujours un train, si ce n'est 10 d'avance, sur tous les minables notables de Colobane. Toute la scène ici est une vraie scène de western. Pensez au, je sais pas moi, au motif du train dans le western. Je disais que le western, c'est le motif de la frontière entre la sauvagerie et la civilisation, un motif qui est respecté ici, mais c'est aussi le motif de la civilisation en marche, la civilisation qui arrive, l'histoire qui débarque dans le plan. Et bien, littéralement ici, l'histoire, c'est-à-dire la modernité du train, cette machine qui avance, elle vient briser la mise en scène de Colobane qui, en fait, est beaucoup plus du côté, j'ai presque envie de dire, d'avant la civilisation. Le train, c'est vraiment quelque chose qui vient tout de suite briser complètement la petite mise en scène de Colobane et même les moyens de Colobane. Colobane n'avait presque pas les moyens d'anticiper l'arrivée du train. Et en fait, le personnage qui en descend, Lingéré Ramatou, c'est un personnage qui personnifie la modernité à elle seule. Quand elle en descend du train, elle est elle-même, et elle le dit très très vite, recouverte de prothèses, bardée d'une armure en or, qui est presque comme si elle était enfantée de ce train. Elle le possède, mais c'est aussi elle-même qui est enfantée par la modernité. Cette modernité dont elle tire les ficelles, puisqu'elle est richissime à milliards, puisqu'elle possède aussi la société qui exploite le train, et on comprendra plus tard qu'elle possède toutes les sociétés qui exploitent le pétrole et qui exploitent toutes les richesses de ce pays-là. En vérité, Ngiré Ramatou est presque, à ce moment-là du film, déjà une métaphore. C'est moins un personnage que la métaphore de la mondialisation tout entière, et même pourquoi pas du capitalisme. Ça n'est plus tout à fait une personne humaine, c'est une personne qui est mi-homme, mi-machine, c'est une personne qui est mi-homme, mi-processus beaucoup plus global qui l'a infectée elle-même. Elle est certes riche, et son corps est certes bardé de prothèses, mais ce sont les prothèses en or d'une personne qui est en train de perdre son humanité. Et d'ailleurs, quand Lingéré Ramatou va descendre du train, elle va tout de suite mettre court par la franchise de sa parole à la parole performative des personnages de Colobane. Colobane n'est là que pour proposer un spectacle. Colobane, en vérité, n'a rien d'autre à proposer que ses artifices. Là où Lingéré Ramatou propose des choses concrètes, et tellement concrètes que les artifices n'ont aucune prise sur elle. Lingéré Ramatou est un personnage qui écrit le scénario, on va le voir bien sûr, un scénario, on va le découvrir, qui est en fait celui, autre motif western, d'une vengeance. C'est-à-dire que tous les marqueurs du western américain classique sont ici. La frontière, sauvagerie, civilisation, la modernité à travers le train, et bien sûr, bientôt, ça n'est pas encore présent dans cet extrait, mais le motif de la vengeance. Et comment cette vengeance va s'accomplir, comment cette vengeance va s'annoncer, cette vengeance très subtile, très bien écrite, puisque je vous rappelle que Lingéré Ramatou est non seulement la scénariste de cette histoire et de cette aventure, mais elle en est aussi la véritable metteur en scène. C'est elle qui met en scène, c'est elle qui met en scène, c'est elle qui écrit, c'est elle qui tient le stylo du récit et la caméra du film. Et d'ailleurs, petit détail que vous aurez remarqué, elle n'arrive pas n'importe quand, le train n'arrive pas n'importe quand, il arrive en sifflant. C'est-à-dire qu'il arrive d'abord dans le plan de manière sonore. Et pourquoi il siffle et pourquoi il arrive de manière sonore? Parce qu'à ce moment précis, le maire, vous savez qu'on a déjà vu confier par avance son futur pouvoir, enfin son pouvoir présent à Draman, le maire est en train de faire un discours. Il est encore en train de performer, de faire une espèce de répétition cérémonieuse de ce qu'il faudra dire à Lingéré Ramatou pour l'amadouer. Mais Lingéré Ramatou, c'est le train qui lui coupe la parole. C'est le sifflement beaucoup plus puissant, beaucoup plus concret, beaucoup plus solide d'une modernité qui est là pour, d'avance, écraser Colobane. Et puis c'est Lingéré Ramatou qui, comme je vous le disais, écrit, mais c'est elle qui parle. C'est Lingéré Ramatou qui est la seule à parler dans ce film, dont les paroles ont de la consistance. Et vous allez voir de quelle manière elles ont de la consistance à travers le deuxième extrait. Le deuxième extrait, il est assez long aussi, mais il est extrêmement riche, et je vais vous demander vraiment d'être très attentif. Le deuxième extrait, c'est, vous savez, ce moment où énième performance, on se retrouve auprès de Lingerie Ramatou pour lui faire ce fameux discours qu'elle avait coupé en arrivant par le train, et en fait auquel Lingerie Ramatou va répondre par une autre forme de parole, mise en scène elle aussi, qui est celle de la vengeance. Elle va énoncer ce qu'elle est véritablement venue faire à Colobane. Et je vais vous demander de prêter attention évidemment à la façon dont les mises en scène se répondent, celle de Lingerie Ramatou et celle des villageois, la façon dont ils sont filmés, mais aussi ce qu'on montre en marge. Parce qu'en fait, on ne se contente pas de ces deux régimes entre Lingerie Ramatou et du moins sa cohorte de personnages et les villageois. Vous allez voir qu'il y a aussi d'autres images dans un montage qu'on pourrait déjà qualifier de parallèle. Regardez bien toutes les images et prêtez attention à ce qu'elles peuvent signifier par rapport à ce qui se passe du côté de Lingerie Ramatou et des villageois. Vous l'avez vu, cette scène est très importante puisque c'est le moment où Lingerie Ramatou explique en fait les raisons de son retour. Des raisons très western puisque les raisons de son retour consistent en une vengeance. Lingerie Ramatou n'est pas venue pour investir des milliards à flot gratuitement, elle est venue pour investir des milliards à flot, 100 précisément, mais en échange de la tête de Dramane Dramé et du département de la justice qu'elle souhaite s'acheter. Nous sommes donc là, je vous le disais tout à l'heure, dans une opposition. Une opposition entre les intérêts de Lingerie Ramatou et les intérêts du village. Mais nous sommes aussi dans une opposition de mise en scène. Vous l'avez remarqué, tout se passe dans une espèce de nouvel amphithéâtre. Et d'ailleurs, il y avait même des spectateurs, il y avait des gradins, tout cela n'était qu'un spectacle. Et d'ailleurs, le discours que l'on fait à Lingerie Ramatou avant qu'elle prenne la parole vise bien à nous montrer que toutes les paroles, tous les mots prononcés par les gens de ce village n'ont pas plus de consistance que de la palabre. Nous ne sommes ici que dans la tartufferie, puisque ce discours-là qui vante des mérites imaginaires à Lingerie Ramatou, en vérité, personne ne serait capable de les assumer, puisque ce discours-là, personne ne peut l'assumer, parce que ça n'est qu'un discours de façade. Personne ne connaît Lingerie Ramatou et personne ne sait véritablement pourquoi elle est revenue. Nous sommes donc dans une parole performative, une pure performance de faux-semblants, qui va être brisée par la parole de Lingerie Ramatou, qui, elle, a quelque chose à dire. Et là, c'est très intéressant, parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça nous montre ? On voit dans la mise en scène que tout oppose les deux camps, mais que tout oppose les deux camps comme un espèce de duel en fait. La mise en scène elle-même organise un duel, encore un motif western, la vengeance, mais dans un duel. Et un duel de quoi ? En fait, un duel entre deux types de mise en scène et deux types de paroles. Tout ce qui va se passer du côté des villageois relève du carnavalesque, du cirque, de la tartufferie. Nous sommes dans le règne du simulacre et des faux-semblants. On fait croire à Lingerie Ramatou qu'on est ravi de son retour, alors qu'en vérité, ce qu'on attend, c'est de l'argent. On est juste là pour la séduire et l'amadouer et lui servir un spectacle. Les paroles et l'aspect cérémonieux ne cachent rien. Nous ne sommes que derrière des masques et derrière des costumes de scène. Nous ne sommes que dans le registre et le régime, nous sommes dans le pur régime des apparences. Sauf que Lingerie Ramatou, elle n'est pas dans le pur registre de la comédie, elle n'est pas dans la bouffonnerie. Lingerie Ramatou, elle est là pour raconter quelque chose de tragique. Son histoire tragique. Elle a été, en étant exilée de Colobane, elle a connu une vie de prostitution, de continent en continent, qui l'a amenée certes à la prospérité, mais d'abord une vie de drame et de tragédie. Elle, ce qu'elle a à raconter, ce qui sort de sa bouche, ça n'est pas de la comédie, ça n'est pas de la tartufferie, ça n'est pas des faux-semblants. C'est quelque chose de bien concret et de tragique. Et d'ailleurs, la mise en scène vient organiser un duel entre la comédie bouffonne d'un côté du village, qui est filmé en plongée, écrasé par le regard qui a plus de poids et de gravité de Lingerie Ramatou. Vous avez vu que les villageois sont filmés en plongée. Et Lingerie Ramatou est filmée en contre-plongée, on la regarde de haut. Mais c'est aussi qu'elle est filmée comme quelque chose de tragique. Elle est filmée comme quelque chose de plus grave et de plus grand. La mise en scène de Lingerie Ramatou appartient au registre de la tragédie. En vérité, c'est, vous savez, ce fond de tragédie qui d'un coup vient se signaler sous... l'apparence de la comédie. Toute comédie casse toujours de la tragédie, et ça depuis le théâtre antique, mais aussi depuis Chaplin. Je veux dire, Chaplin, c'est pas pour rien que... Je parle de Chaplin pour vous parler de cinéma et un peu d'origine. Et Chaplin, c'était quelqu'un qui nous faisait rire sur la base de choses qui étaient tragiques, sa misère et le fait que sa marginalisation de la société. Et bien, c'est exactement pareil ici. On rit de la bouffonnerie et de la théâtralité de ces villageois qui sont ridicules, mais on en rit parce qu'au fond, il y a quelque chose de tragique là-dedans. Et le tragique, c'est ce qu'a vécu Lingerie Ramatou. Or, la séquence ne se limite pas à ce duel-là. La séquence est éclairée par d'autres images. Des images que je vous disais tout à l'heure qui sont montées en montage parallèle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez expliquer à vos lycéens. Je pense qu'ils en ont des notions si vous avez déjà approché des films avec eux. Le montage parallèle, vous savez, c'est quand on a des trajectoires, des images qui coexistent dans une même séquence parallèlement sans jamais se rejoindre. quand elles se rejoignent, c'est-à-dire quand on a deux personnages qui, par exemple, essaient d'arriver à un même point, mais dans une course contre la montre, ça, c'est ça, ce qui s'appelle un montage alterné. Ici, pas du tout, on est dans un montage parallèle. Et ce montage parallèle, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre l'exécution d'un buffle, en tout cas d'un bœuf de là-bas, et une danse. Une danse extrêmement emphatique, et il met en écho ces séquences qui, bien évidemment, s'éclairent. Ça peut paraître un peu énigmatique, mais en vérité, vous avez vu le film, et vous savez très bien que l'exécution du bœuf est très exactement ce qui attend Draman. C'est une espèce de vision prémonitoire du scénario, de ce qui attend Draman. Et c'est quelque chose qui vient accentuer, donner plus de poids encore à la parole de Lingere Ramatou, puisque Lingere Ramatou énonce quelque chose, dit qu'elle veut la tête de Draman. On lui dit non, nous sommes certes en Afrique, mais nous ne sommes pas encore sauvages. Là encore, parole purement performative, le film va nous le prouver, mais parole de faux-semblant. Mais en vérité, ce qui se passe, ça se passe en marge. L'exécution du bœuf, c'est exactement ce qui attend Draman. Et ce qui se passe en marge avec la danse aussi, c'est exactement ce qui se passe avec les villageois. Les villageois sont dans une espèce de dénudement absolu et n'ont que des spectacles à proposer, n'ont que des artifices, d'ailleurs très maladroits, sans substance, à montrer. La danse est un petit peu du côté de ce qui se passe à Koloban, et le sort du bœuf est un peu le sort de Draman. L'exécution collective qui attend Draman, je ne vous dévoile rien, de toute façon, vous avez vu le film. Mais là, c'est quelque chose de très intéressant parce que, certes, l'exécution du bœuf est prémonitoire, mais les images aussi de l'exécution de ce bœuf sont très intéressantes. En vérité, les images de l'exécution de ce bœuf, elles ne sont pas du tout mises en scène, en tout cas beaucoup moins que celles de la rencontre et du duel entre Lingère et Ramatou et le village. Ce sont des images qui apparaissent dans leur nudité documentaire. Exactement comme toutes les images d'animaux dans le film, vous savez, qui vont exister un petit peu en montage parallèle pendant toute notre histoire. On voit des hyènes, on voit des vautours, on voit des éléphants, on voit ce bœuf qui se fait exécuter. Eh bien, toutes ces images, elles apparaissent dans leur nudité, dans leur crudité documentaire. Là encore, pour appuyer l'idée que ces animaux-là existent dans un réel sans posture, contrairement aux habitants de Koloban, qui se targuent peut-être d'une humanité qui les empêcherait d'envoyer Draman à l'échafaud pour l'instant, mais c'est une humanité qui n'est qu'artifice, une humanité qui n'est là encore que performative, car on sait bien qu'en vérité, les habitants de Koloban vont céder à cette régression animale pour l'appât du gain et l'avarice. Mais les animaux, eux, sont filmés en documentaire. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient évidemment marquer une différence de régime d'image entre la nudité, la crudité, la permanence du règne des animaux, qui eux ne sont pas dans la posture, qui ne sont pas dans l'artifice, et les artifices de Koloban. Et les puissances du spectacle, du simulacre, provoquées par l'arrivée de l'argent, hein, tout ça marque une espèce de grande dichotomie à l'échelle du film et appuie la dimension morale du film. On n'est pas sans savoir que dans tous les contes, depuis La Fontaine, mais aussi en Afrique, les animaux ont toujours une signification morale. Si le film s'ouvre sur des éléphants et termine sur des éléphants, c'est parce que l'éléphant est un animal fortement symbolique. La hyène aussi, d'ailleurs, le film porte le titre d'un animal qui est la hyène. Or, la hyène, c'est l'animal qui, en tout cas, je le lisais dans le dossier qui est très bien fait par sur Transmettre le cinéma, la hyène représente, en tout cas dans les contes africains, pas seulement le rapace, ça c'est plutôt le vautour. La hyène, c'est celle qui prend le temps, c'est celle qui patiente, c'est celle qui suit sa proie jusqu'à ce qu'elle soit à l'agonie et que la hyène n'ait plus aucun effort à fournir pour la dépecer, et c'est celle qui attend tranquillement de pouvoir dépecer une carcasse. Eh bien, c'est précisément ce qui est en train d'inoculer Lingere Ramatou dans cette histoire. Elle n'est pas pressée, Lingere Ramatou. Elle n'exige pas la tête de Draman Dramé tout de suite. Elle est même plus pernicieuse que ça. Elle veut la justice tout entière. Elle ramène un juge avec elle. Et puis ce juge, il dit, nous voulons la justice. Mais pourquoi elle veut la justice? C'est parce qu'en vérité, ici, c'est clair. La véritable intention de Lingere Ramatou est la dimension extrêmement profonde et stratège de sa mise en scène. En fait, Lingere Ramatou, elle ne veut pas que Draman. Et on l'apprendra à la fin du film, elle ne veut pas Draman tout court, en fait. Ou du moins, elle le veut pour elle. Mais la vengeance n'est pas adressée à Draman. En fait, dans cette manigance se devinent ses intentions, qui sont celles de causer non pas la perte de Draman, mais de cette ville qui a causé sa perte à elle. Et comment elle le fait? Elle le fait en inoculant son venin, en attaquant directement les idéaux politiques et moraux de Koloban. Comment? En achetant sa justice. Justice qui n'est pas quelque chose qui se met au service de l'intérêt collectif et commun, mais qui n'est en fait qu'une somme d'individualité. Au moment où elle a été exilée, c'est parce que ça arrangeait bien Draman et les notables de la ville d'exiler Lingere Ramatou plutôt que de condamner Draman. Exactement de la même manière que le maire s'est arrogé le droit avec ses notables de désigner un prochain maire sans jamais consulter personne dans cette ville, eh bien la justice, Lingere Ramatou le sait, la justice de Koloban est aussi une tartufferie, est aussi un spectacle, est tout aussi corrompu que le reste. Et l'Ingrid Ramatou sait très bien qu'il lui suffira d'offrir quelques cadeaux, de semer un peu de dollars pour que ce qu'elle exige lui arrive dans les mains sans le moindre effort, exactement comme une hyène. C'est donc toute une histoire de duel, de mise en scène et en vérité de puissance empoisonnante. Ce qui intoxique Colobane, c'est l'argent. Et l'Ingrid Ramatou le sait. Et l'Ingrid Ramatou n'est pas tant là pour la tête de Draman, elle est là pour obtenir vengeance d'une société tout entière. Une société qui l'avait condamnée par iniquité et par il est presque de manière illégale. Ce qu'elle vient faire ici, c'est obtenir vengeance, obtenir justice et faire le procès de Colobane, d'une ville tout entière et d'une société. Et à travers elle, peut-être, évidemment, dans l'œil de Djibril Diop Mambéty, d'une Afrique tout entière qui n'aura pas su respecter les promesses de l'après-indépendance, d'une Afrique qui a sombré elle aussi dans la corruption et la tartufferie et d'une politique qui en vérité ne s'adresse qu'à une somme de petits notables, qu'à une somme de petites individualités et jamais au bien commun. Tout ici, évidemment, fait office de métaphore. Et c'est pourquoi je vais vous montrer la troisième, cette fois-ci le troisième extrait, qui montre comment, justement, le venin pénètre dans le corps social, qui montre comment agissent les forces toxiques de l'argent et comment peu à peu Draman en est exclu. Draman qui lui aussi était le prochain maire, Draman qui lui aussi avait une parole performative, soudain va se ranger dans le camp de l'Ingrid Ramatou. Alors je vous montre ça et je vous demande évidemment de prêter attention à comment l'argent fait son œuvre. Alors je rappelle rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu ce qui se passe dans cet extrait, on est au milieu du film vraiment. Et au tout début, Draman rend visite au maire. Donc le maire, vous savez qu'avec a toujours son chapeau de cow-boy et qui fait des discours. Et il se rend compte que le maire et son assistant sont en train de préparer, tirent des plans sur la comète, quoi. C'est-à-dire on dépose un plan de ville toute neuve, on accepte des cadeaux, les bureaux sont neufs, les machines à écrire sont neuves, c'est limite si on n'apporte pas des ordinateurs. Bref, on est déjà en train d'acheter à crédit. La séquence d'après, le maire lui dit. Suivez cet escalier, c'est la porte du, c'est le chemin du paradis. En fait, Draman, qui est encore sonné par ce qu'il vient de voir, arrive dans une église et pour se confesser, en tout cas essayer d'obtenir une parole rassurante et sage. Et en fait, il se rend compte que même le prêtre accepte aussi des cadeaux, puisqu'il y a un très beau lustre qui est installé dans l'église. Et puis, à ce moment-là, j'y reviendrai, il y a une télé dans l'église et il voit des images, hélas, tristement connues, vous savez, des images de misère en Afrique avec des enfants faméliques, qui têtent le sein de leur mère, qui sont tout aussi faméliques. Et puis à ce moment, il se met un petit peu on comprend qu'il réalise quelque chose. Et puis après, toujours dans ce même extrait, on voit, vous savez, cette kermesse, cette fête de nuit, qui a été en vérité filmée à la fête de l'Huma, illégalement, hein, par Diop Mambéty, et en parallèle de laquelle, l'Ingrid Ramatou fait des cadeaux aux habitants de Colobane, et notamment des cadeaux de modernisation, d'électroménager, de frigo, de machine à laver, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà ce que je viens de montrer, pour ceux qui n'ont pas vu. Cette séquence est très intéressante, c'est une séquence pivot évidemment du film, parce qu'en fait c'est le moment où Draman ouvre les yeux sur ce qui se trame, sur la façon dont le poison fait son œuvre, et s'extirpe du simulacre général. C'est le moment où Draman se rend compte en fait que le petit jeu auquel sont en train de se prêter ses anciens amis, ils sont en train tout simplement d'acheter à dette. Mais à dette de quoi? À dette de lui en fait. Sur la base de quoi ils acceptent ces cadeaux, ce sur la base de quoi ils acceptent cette modernisation, ce retour de la prospérité, c'est quelque chose de très malhonnête, puisque c'est l'acceptation du contrat, du deal proposé par l'Ingrid Ramatou. Donc en fait, à chaque fois que le maire dessine un nouveau plan de ville, à chaque fois que des habitants acceptent un frigo, acceptent une machine à laver, à chaque fois qu'un habitant accepte de s'amuser à la kermesse, eh bien, en vérité, c'est un petit morceau de Draman dramé qu'on est en train d'échanger contre ce bonheur acheté à crédit. Le crédit, ici, c'est évidemment une métaphore de la dette. Et c'est une métaphore d'une Afrique qui hypothèque l'essentiel au seul profit de quelques-uns et au seul profit de quelque chose qu'on ne mérite pas vraiment, en fait. Parce que ce que Colobane est en train d'acheter, elle le fait sur le corps de Draman dramé. Elle cannibalise Draman dramé. À chaque frigo, c'est un membre qu'on lui enlève, métaphoriquement, puisque si la ville de Colobane avait fermement refusé l'offre d'Ingrid Ramatou, elle n'aurait pas accepté les cadeaux. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les femmes, et notamment la femme de Dramen Dramé elle-même, qui accepte les cadeaux. C'est-à-dire que même la femme de Dramen Dramé accepte de manger sur la dépouille de Dramen Dramé, accepte de jouer le jeu de hyène proposé par Lingere, ou du moins le jeu de vautour proposé par la hyène Lingere Ramatou. Et qu'est-ce que ça montre? Cette séquence est extrêmement importante parce qu'elle montre qu'à ce moment-là, Dramen Dramé va rejoindre le tragique, va rejoindre la gravité de Lingere Ramatou. À ce moment-là, Dramen Dramé n'est plus dans une parole performative, il est dans une parole qui dit vrai. Il est dans une parole franche et honnête. Il dit aux autres ce qu'ils sont en train de faire. Et vous êtes en train de acheter votre prospérité sur moi, en sursis. Je ne suis plus qu'un vivant en sursis. Et d'ailleurs, quand il arrive dans cette église, comme je vous le décrivais tout à l'heure et comme vous venez de le voir pour la plupart d'entre vous, et qu'il voit une télé qui diffuse des images documentaires de la misère, mais en fait du réel de Dakar et du Sénégal et d'une grande partie de l'Afrique noire, en fait c'est une métaphore pour montrer que Dramen Dramé ouvre les yeux. Dramen Dramé n'est plus dans le simulacre et le mensonge et les faux semblants que tout le monde croit eux-mêmes. Hein. Le propre de la mythomanie, c'est de croire à ses propres mensonges. C'est exactement ce dans quoi est en train de sombrer Coloban. Une espèce de performance mythomane totale où tout le monde croit qu'il n'est pas responsable et tout le monde s'achète du confort sur le dos de Dramen Dramé, qui était leur ami, hein, pour mémoire. Dramen Dramé est une personnalité appréciée de Coloban au début. C'est même quelqu'un à qui on a envie de confier les clés de Coloban et à qui on lui dit « Ah non, ça n'est plus d'actualité, puisque en fait, peut-être que tu es coupable, effectivement, et qu'on pourrait prendre le parti de Lingere Ramatou. » Qu'est-ce que ça vient montrer en métaphore? Et qu'est-ce que ça vient nourrir comme propos sur le Sénégal de 1990 et même toute une partie de l'Afrique noire, continentale en tout cas, dans la bouche, dans les regards de Diop Mambéty? Ça montre en fait que la façon dont certains en Afrique se sont adjugés du confort, la façon dont certains en Afrique ont adhéré à la mondialisation et aux puissances de l'argent, ne s'est pas faite au profit de tout le monde, ne s'est pas faite à un profit commun. Dramen Dramé, à ce moment-là, s'il regarde des enfants dans la misère, c'est qu'il est un petit peu, il devient un peu lui aussi, il appartient lui aussi un peu à cette famille de la misère. Cette misère, en fait, c'est le prix à payer, c'est le sursis sur lequel certains en Afrique se sont achetés du confort. En fait, Dramen Dramé, c'est la part d'humanité, c'est l'âme que l'on hypothèque pour un peu de confort, du moins que certains hypothèquent pour un peu de confort, les notables. Ceux qui s'achètent des frigos, ceux à qui on offre des frigos dans la séquence, ça n'est mine de rien pas n'importe qui, ça n'est pas non plus les gueux, c'est la femme du maire, c'est la femme du prof, c'est la femme de Dramen Dramé. Ce sont les notables, et donc ce sont des gens en Afrique qui ont ce petit pouvoir qui leur permet de vendre l'humanité, en fait, en échange de ce confort à leur seul profit. En fait, ici, Dramen Dramé devient l'Afrique qui ne profite pas de la mondialisation. Et cette Afrique qui ne profite pas de la mondialisation, c'est aussi l'Afrique pauvre qu'il est en train de voir dans la télévision. Dramen Dramé ouvre les yeux, c'est une scène de révélation. Et d'ailleurs, s'il va dans une église pour ouvrir les yeux, c'est en fait la télévision qui lui apporte cette ouverture. Ce n'est pas le prêtre, puisque le prêtre, lui aussi, le spirituel, le régime spirituel, lui aussi, appartient à cette bande de notables qui profite, en fait, tout simplement de l'argent et de ce que propose Lingere Ramatou. Ce n'est absolument pas une porte de secours, une ouverture. La seule ouverture qu'il va trouver, c'est Lingere Ramatou elle-même. En vérité, à ce moment-là, Dramen Dramé, avec sa vision crue et sèche du réel, va se rapprocher de Lingere Ramatou. Il comprend qu'au même titre qu'elle, il n'est plus qu'un fantôme de ce monde. Il n'est plus tout à fait vivant, il n'est plus tout à fait humain. Il est dépecé par les autres. De la même façon que Lingere Ramatou a été transformée en femme machine, qui n'est presque plus humaine, qui est d'une froideur glaciale, de la même façon qu'elle n'est plus tout à fait humaine, Dramen Dramé devient lui-même une espèce de fantôme. Et d'ailleurs, tout le film est une espèce de fantôme. Et notamment, c'est quelque chose qui va apparaître de manière spectaculaire et extrêmement signifiante à la fin, dans le dernier extrait que je vais vous montrer dans sa quasi-intégralité. Donc ça va être un peu long, ça va être 10 minutes. J'espère que vous allez pouvoir le voir, parce qu'en plus, c'est un très très bel extrait. La musique à ce moment-là est magnifique. Et ce serait dommage de se priver de cet extrait-là. Donc je vais demander à Emeline le dernier extrait pour montrer, voilà, quel était finalement la finalité du film, et quelles étaient les intentions de Lingere Ramatou en inoculant le virus de l'avarice ce petit village de Coloban. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je résume très très vite. En fait, j'ai découpé au moment où Dramen et Lingere Ramatou discutent au bord de la mer et que Lingere Ramatou lui dit d'aller mourir pour venir la rejoindre au large du Nil, c'est-à-dire hors du monde. Et puis Dramen va mourir dans cette espèce de procès au milieu d'une carrière qui est une fois encore une scène avec des spectateurs juché au sommet d'une colline. Et puis, après sa mort, les habitants de Koloban disparaissent et laissent place à des pelleteuses qui, le devine-t-on, enterrent Koloban, ou du moins construisent moins qu'elles n'enfouissent. Voilà ce qu'il s'est passé dans la séquence que je viens de vous montrer. Et qu'est-ce qu'elle nous montre, cette séquence? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle nous raconte qu'en vérité, Lingere Ramatou n'était pas la promesse d'une reviviscence de Koloban, mais bien son ange de la mort. Mi femme, mi machine, elle était venue pour obtenir moins la vengeance de Draman Dramé que de la fourberie de la société tout entière, coupable à ses yeux d'avoir ruiné son premier amour, en fait. Et c'est ça qui est très beau dans cette fin, c'est que cette femme est certes puissante, mais cette femme est surtout sous la puissance et la puissance financière et la puissance de son pouvoir. C'est surtout en vérité, c'était en fait surtout l'histoire d'une femme blessée, d'une amoureuse blessée. Et c'est donc une histoire de fantôme, en fait. C'est une histoire de fantôme qui vient récupérer son premier amour, qui est forcément un fantôme. Tout premier amour est le fantôme de notre vie. Lingere Ramatou est une revenante, et je vous le disais, mi femme, mi machine, bardée de prothèses, elle n'est déjà presque plus humaine. Et Draman Dramé, je vous le disais dans la séquence précédente, avait déjà été cannibalisé par la société, en fait, en étant dépecé, alors virtuellement, symboliquement, par les autres qui l'achetaient, qui achetaient du confort sur sa dépouille, il était, sur la fin du film, déjà un fantôme, et un fantôme ricanant, un fantôme lucide. Et c'est pourquoi ces deux personnages, c'est très très beau cette séquence au bord de la mer avec ces deux personnages qui discutent, c'est parce que ils discutent du point de vue d'un espèce de point de vue et de recul de sagesse qui est celui de deux personnes qui se retrouvent, qui est celui de deux personnes qui ne vivent déjà plus. Ce sont deux revenants. Donc en fait, la puissance de Lingere Ramatou, la puissance financière de Lingere Ramatou, elle lui aura surtout servi à récupérer son amour de jeunesse. Quand Draman meurt sous l'enfouissement des habitants de Koloban, elle s'éclipse comme une déesse ayant accompli son œuvre. Elle s'immole dans le souvenir de cet amour qui était en fait tout ce qui la retenait à l'humanité. Si elle revient à Koloban, c'est autant pour obtenir vengeance que pour ramener en fait tout ce qui la retenait à l'humanité. Elle est morte une première fois, en fait, Lingere Ramatou. Elle est morte quand Koloban l'a exilée, mais surtout quand Koloban l'a exilée à la demande de Draman Dramé, qui est son premier amour, qui l'aimait. C'est là qu'en fait, Lingere Ramatou est morte. C'est là que Lingere Ramatou a perdu, elle, son âme. Et comment elle veut obtenir vengeance? En se vengeant de Koloban et en lui faisant à son tour perdre son âme. Et comment? Eh bien, tout simplement en organisant une parodie de procès. Tout ce qui se passe à ce moment-là n'est que parodie, n'est que simulacre. Et d'ailleurs, tous les personnages de notables qui exécutent Draman et qui votent à main levée sans aucune consultation populaire la mort de Draman, en fait, ils sont enfouis, ils sont complètement fardés. Ils sont fardés pourquoi? Pour ne pas assumer la responsabilité individuelle de leur acte. En fait, ils se fardent, et ils se fardent de leurs beaux discours et de leurs mots mensongers pour mieux oublier la responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire, qui est de commettre un meurtre, en fait. Et c'est cette parodie-là que Lingere Ramatou voulait commettre. En fait, elle voulait inoculer le venin d'une vengeance qui, en fait, ferait perdre son âme à Koloban. Au même titre qu'elle a perdu son âme quand Koloban l'a renvoyée. D'ailleurs, la scène est très intelligente, cette scène de procès, elle est magnifique, parce qu'en fait, elle fait une nouvelle fois écho, vous savez, à ce plan parallèle sur le buffle, au moment où Lingere Ramatou annonce sa vengeance, vous savez, il y avait l'exécution du buffle. Et je vous disais, c'était une scène prémonitoire. Mais c'était une scène prémonitoire qui va être rejouée de manière inversée. Ici, en fait, tous les habitants, ils sont certes fardés, mais pas n'importe comment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des coiffures de buffle, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout s'est inversé et que ce sont eux qui ont régressé à un stade animal. Ils ont perdu leur humanité. En se fardant de cette espèce de double grimacier qui n'assume pas ses responsabilités et qui même vend son âme au diable, le diable de la mondialisation, le diable de l'argent, en vérité, ils régressent à un stade animal. C'est eux qui deviennent des animaux. Et c'est Draman Dramé qui, lui, n'est pas fardé. C'est lui qui est véritablement humain. C'est lui qui a retrouvé son regard. C'est lui qui a compris ce qui est en train de se jouer. Et ce qui est très beau aussi, et c'est peut-être ce que vous allez pouvoir apporter comme explication et interprétation à vos lycéens qui se demanderaient pourquoi Draman Dramé ne meurt pas physiquement, c'est en fait pourquoi il s'évapore. Il s'évapore parce qu'il était déjà un fantôme, et il s'évapore parce qu'il avait déjà été tué. Quand? Dans la séquence précédente, quand les gens l'achètent, achètent des provisions sur sa dépouille. Quand je vous dis qu'on achète une machine à laver, et ben on lui enlève des viscères. En fait, on avait déjà consommé les viscères, en fait on avait déjà consommé sur la dépouille de Draman Dramé, qui n'était plus qu'un fantôme. Draman Dramé n'avait plus de contenance, ça n'était plus qu'un regard, un regard lucide sur ce qui était en train de se jouer à Coloman. Dès lors, quand il meurt, en fait, il n'y a plus rien à consommer, il n'y a plus rien à faire disparaître. Il avait déjà disparu, il avait déjà été cannibalisé, vampirisé par Coloman, mais par l'avarice de Coloman. C'est donc ça, en fait, toute la trajectoire du film. C'est la trajectoire d'une société qui, en vendant son âme aux puissances de l'argent, régresse au stade animal. Et c'est pourquoi les animaux sont semés partout, évidemment pour appuyer la dimension de conte moral, mais aussi pour montrer qu'en vérité, quand on régresse au stade animal, eh bien, en fait, on se soumet non plus à la civilisation et à la loi protectrice qui est la porte, c'est-à-dire à cet ordre qui permet à tout un chacun d'exister. Quand la loi n'existe plus et qu'elle n'est plus qu'une parodie, une contrefaçon de loi, quand nous ne sommes plus des hommes mais plus que des contrefaçons d'hommes fardés ridiculement, eh bien, nous régressons au stade animal, nous régressons au stade de la sauvagerie. Et quand on régresse au stade de la sauvagerie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le film nous montre qu'on se soumet à la prédation de créatures plus puissantes. Les pelleteuses, après le procès, ce sont en fait d'autres créatures, les créatures de la mondialisation, les créatures du monde de l'argent en marche, qui ne construisent pas, comme le croyait le maire en édifiant des plans sur la comète, mais qui enfouissent, qui détruisent. En vérité, la mondialisation détruit bien plus Coloban et détruit bien plus le Sénégal et l'Afrique qu'elle ne la construit, qu'elle ne l'innerve, qu'elle ne la ressuscite. En fait, tout ce film était la métaphore de la corruption, évidemment, la métaphore de la façon dont l'Afrique notable avait vendu son âme au diable pour un peu de confort au détriment de tout le reste de l'Afrique qu'on avait vu dans la télévision, dans l'église. Et Draman, en fait, a ouvert les yeux. Et Draman, surtout, a ouvert les yeux sur ce qui était le plus important aux yeux de Ramatou. Et c'est ça qui est très beau. Moi, je trouve que ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas simplement la métaphore d'une façon dont l'Afrique s'est vendue, en fait. C'est aussi une histoire d'amour. Je trouve que ce qui est très très beau, c'est qu'en fait, la beauté du geste de Ramatou tient au fond, en creux, à avoir préservé Draman et l'âme de Draman de la vengeance qu'elle fait à Coloban. En fait, Draman, au fond, va la rejoindre sur cette île, hors du monde, hors d'un monde qui l'a elle-même, qui a elle-même causé sa perte. En fait, ce qu'elle fait, Ramatou, cette femme machine bardée de prothèses, c'est qu'elle inocule le venin qui a elle-même causé sa perte à Coloban, mais pas à Draman. Draman, elle le ramène dans son monde à côté, elle lui fait subir une leçon morale au sens presque des fables de La Fontaine. Mais au fond, ce qu'elle s'offre, tout ce qu'elle s'offre Ramatou, avec son argent et évidemment son intelligence de grande stratège, tout ce qu'elle s'offre, c'est ce que toute amoureuse blessée rêverait de s'offrir, à savoir ouvrir les yeux de celui qui l'avait abandonnée pour le ramener à la raison de leur premier amour, et puis consommer ce bonheur sur une île à l'abri de ce monde tragique et corrompu qui les avait séparés. C'est ce que rêve toute personne blessée, toute amoureuse blessée. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, Yen est d'abord le récit d'une amoureuse blessée qui vient ramener son premier amour à la vérité, à la seule vérité qui reste, et qui était en fait la force des sentiments de leur amour de jeunesse. Et Toukibouki, le premier film, partait déjà sur un élan, comme ça, de deux personnages, d'un amour très très puissant qui propulsait comme ça deux personnages qui pourraient être Draman et Linguéré beaucoup plus jeunes vers un ailleurs qui aurait été l'Europe à l'époque, en tout cas dans Toukibouki. C'est ça, moi, que je trouve très beau, c'est qu'en vérité, sous la froideur de cette machine, de cette femme machine, de cette femme puissante, plus puissante que la Banque mondiale, ne se cachait qu'une amoureuse blessée. C'est ce que je trouve très beau, c'est ce que je trouve que le film raconte bien. Et je vais m'arrêter là, je suis désolé, je suis obligé d'être très rapide, il est déjà 10h50. Est-ce que vous auriez des questions? Évidemment, je n'ai pas pu ratisser tout le film. Alors voilà, ça commence. Alors, Agnès me dit, symbolique du porteur de poule. Alors, le porteur de poule, en fait, c'est un. Je pense que c'est le vagabond. Je pense que c'est le vagabond, ou du moins il est associé à celui-là. C'est le vagabond qui, vous savez, assiste à la répétition. Au tout début, dans le premier extrait que je vous ai montré, c'est le vagabond qui assiste en fait à la tartufferie et qui n'en fait jamais partie. En fait, le vagabond, il vient se désoler justement de la scène. C'est une espèce de regard extérieur, un peu sage, hein, la sagesse du peuple, la sagesse de l'humilité qui ne participe jamais à la mise en scène des notables. C'est un peu ce regard extérieur, plein de recul, qui vient se désoler de ce que Coloban ait perdu son âme. Je pense que c'est un peu ça, le vendeur de poules, ce vagabond-là. Il est toujours extérieur. Il est là, c'est un regard, mais c'est un regard qui se désole. C'est un regard navré de petit cirque de justice qui vient de se jouer. Le singe, la policière japonaise, la langue, le Wolof, la raison du rejet de Linguéré au départ, la grossesse en bref. Alors, je ne vais pas pouvoir ratisser toute la symbolique, d'autant plus que, en fait, tout ça est répondu dans le dossier. Là, en fait, Il y a le film, ce que je vous disais, est surgras, hyper symbolique. Je ne peux pas vraiment prendre point par point. Après, il y a quelque chose qui est intéressant. Je vais vous dire ce que je peux. Hein. Là, on me demande le personnage. Alors, il n'est pas chinois, je pense qu'il est japonais. Qui est Friedrich de la Dédicace? Friedrich de la Dédicace, c'est l'auteur de la pièce originale, La visite de la vieille dame. Oui, sur le choc des cultures, le sens des ronds dans la voiture dans le désert. Alors, je ne peux vraiment pas tout expliquer, je suis désolé. Il faudrait qu'on ait une demi-heure à nous, mais je dois aborder la dame du vendredi. Je vais quand même répondre à quelques trucs. Je pense que c'est une japonaise en fait. C'est une présence japonaise. Et il faut se remettre le film dans son contexte. On est en 92 et il a été écrit et conceptualisé dans les années 80. Et en fait, je pense que c'est une image de la mondialisation qu'apporte Linguere Ramatou. Linguere Ramatou est un personnage fortement métaphorique et tout ce qui l'entoure est évidemment très un réseau de symboles. Et dans les années 80 et 90, je pense que ce qui illustre le plus simplement la mondialisation, c'était la puissance exotique qu'était le Japon. Le Japon, c'était, vous savez, ce miracle économique avec des puissances, des croissances économiques à deux chiffres, vraiment énormes. Et dans les années 80, il faut bien replacer l'idée que enfin, la post-colonisation d'exploitation de l'Afrique chinoise, elle n'est pas encore contemporaine. Ce n'est pas la Chine, c'est plutôt le Japon qui vient illustrer, je pense, cette idée de la mondialisation. Là encore, c'est un pur symbole. Hein. Alors Agnès me dit, désolé, mais les élèves auront du mal à voir le poison de l'argent, mais verront la fête foraine, les frigos, bref, le progrès positif. Alors c'est possible, mais il y a une façon très simple de leur montrer que ce progrès est un leurre. C'est qu'en vérité, ici, tout ce qu'obtient Colobane, Colobane ne l'obtient jamais en monnayant. C'est-à-dire que Colobane, en fait, l'argent, il ne le voit jamais. Et ce que raconte ce film, c'est l'histoire d'une ville, et plus largement du Sénégal et même, pourquoi pas, beaucoup de pays de l'Afrique noire, parce que le film assume cette dimension continentale, c'est l'histoire de pays qui achètent en mettant leur gage, en mettant leur humanité en gage, en fait. Leur monnaie d'échange, c'est leur humanité. Leur monnaie d'échange, c'est leur âme. L'argent n'est jamais visible à Colobane, parce qu'en vérité, Colobane ne touche pas d'argent. Colobane ne fait que recevoir des cadeaux de puissance extérieure. Exactement. Alors voilà, on peut expliquer le contexte évidemment de la situation du Sénégal post-colonial. Dans ces années-là, pays encore dont les liens sont très fermement ancrés dans les relations commerciales avec la France, mais qui sont en fait des relations commerciales à sens unique. On sait très bien que l'Afrique n'a jamais, l'Afrique au sens du peuple africain, n'a jamais profité en vérité de ses propres richesses. L'Afrique est un continent surriche en diamants, en pétrole, en uranium, mais les seuls qui profitent de cette richesse-là, ça n'est pas l'Afrique. C'est la puissance des pelleteuses. Donc oui, évidemment, il faut bien expliquer aux élèves que la fête foraine, les frigos ne sont que du progrès en apparence. C'est un leurre de progrès. En vérité, l'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là et tout ça ne sont que des cadeaux qui visent à amadouer Colobane, qui visent à faire perdre son âme à Colobane. La chose la plus concrète qui se passe, en fait, c'est la mort de Draman. Pourquoi tourne-t-il autour du chasseur de poules dans le sable? Eh bien, je ne sais pas. Je ne peux pas apporter de réponse définitive à cet acte. Peut-être pour signaler l'absurdité, une fois encore, de ce qui est en train de se jouer. Il vient de récupérer une voiture, il fait des tours dans le sable. Je n'ai pas l'explication précise à ce symbole-là. Et hélas, je crois que le dossier n'en parle pas non plus. Donc je ne vais pas pouvoir vous éclairer là-dessus. Libre à vous d'inventer peut-être, ou de trouver en tout cas la clé de cet agissement de Draman. C'est l'Afrique commun des prédateurs, tout à fait. Cercle de la tragédie, bien sûr, la tragédie est omniprésente. La tragédie est omniprésente déjà dans la vie de Linguere Ramatou, et puis aussi dans la façon dont elle est filmée. La gravité, et puis même la beauté, hein, la beauté de Linguere Ramatou, ce visage qui se découpe, vous savez, quand elle est à la fin, quand elle voit Draman partir vers la mort, et elle-même s'immole en plongeant dans les abîmes qu'on imagine être ceux d'une espèce de mort, elle s'immole dans son propre tragique, en fait. La présence de Linguere Ramatou est une présence tout sauf comique. Et je pense que la très très grande beauté de la fin, et puis de cette musique de What is Diop, vient du fait qu'en vérité, c'est Linguere Ramatou qui tire les ficelles. C'est Linguere Ramatou qui, in fine, impose sa tonalité et son registre qui est celui de la tragédie. Parce qu'on parle quand même d'un pays et d'une Afrique qui est un continent tragique. On peut certes montrer ça sous l'angle d'une comédie bouffonne, comme le fait What is Diop avec beaucoup de sagesse, pardon, Djibril Diop m'embêtit avec beaucoup de sagesse, mais ça reste une histoire tragique. Et ce qui est très beau, c'est le visage de Linguere Ramatou qui se découpe, ce visage bleu, d'un noir presque bleu qui se découpe sur l'immensité de ce monde qu'elle convoite, qui est un hors-monde, où où elle pourra rejouer dans l'éternité son amour avec Draman. Alors oui, tout ce qui relève du western, hein, la vengeance, le duel, ce monde d'avant la civilisation, la frontière entre la civilisation et la sauvagerie, tout ça, vous pouvez le retrouver très facilement. Et puis, Djibril Diop-Mbetty a toujours assumé d'avoir regardé plein de westerns dans sa jeunesse, les John Ford et tout ça, et qu'il avait toujours voulu faire des westerns africains, ce qui évidemment s'y prête. L'Afrique est un continent éternellement westernien, en fait. Hein, toutes ces problématiques-là ont toujours lieu. Et ce qui est très beau, et que j'ai peut-être pas assez insisté, c'est qu'en fait, là où c'est très western comme histoire, c'est que, en fait, Lingéré Ramatou se venge avec les armes de son exil. C'est-à-dire qu'une vengeance, c'est pas simplement tuer la personne qui vous a fait du mal. C'est la tuer avec les armes avec lesquelles elle vous a fait du mal. Et Lingéré Ramatou s'achète la justice et transforme Koloba dans une parodie et une contrefaçon de civilisation parce qu'en fait, elle en avait été victime de cette puissance du faux-semblant. Donc en fait, elle obtient justice avec les armes de son propre mal, en tout cas du mal qu'on lui avait causé. Ça, c'est très western. Oui, bien sûr, hein, le cercle avec la voiture, on peut s'amuser à interpréter. De même que là, ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que le corps de Draman n'existait plus parce qu'en fait il avait déjà été consommé à crédit, ça n'est qu'une interprétation de ma part, hein, ça n'est même pas présent dans le livret, je vous le dis, je trouve que c'est juste très parlant et je pense que c'est un peu ce qui se trame dans l'histoire, c'est que Draman a déjà été mangé et Draman a déjà été cannibalisé par cette société qui acceptait des cadeaux et qui a en fait acheté son confort à crédit. Ça dépend de quel western on parle, américain ou italien. Bah en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, Djibril Diop-Mbetty, c'est quelqu'un qui a regardé du western américain. Mais c'est quelqu'un qui fait des films en 1992. Et 1992, mine de rien, c'est pas n'importe quelle date. C'est une date où apparaissent aussi d'autres cinémas de la vengeance, comme ceux de Tarantino. Et d'ailleurs, cette histoire de vengeance n'est pas sans rappeler ce qu'il fera avec Kill Bill, une femme qui obtient la vengeance en reprenant les armes de son ennemi. On est effectivement dans un western qui est certes en référence au western américain, donc un western très pur, très essentialisé, mais aussi un western qui a pris acte de ce qui s'était passé dans le western italien, c'est-à-dire le western de Sergio Leone, qui est un pur moment formaliste, une pure explosion de forme qui ne garde du western que ses signes extérieurs pour jouer en fait avec les apparences du western et avec la mise en scène du western. Je pense que Djibril Diop-Mbetty, un peu comme Tarantino le fait dans ses premiers films à l'époque, hein, en 92, Reservoir Dogs, tout ça, réutilise les codes du western comme le feraient des petits frères avec les poupées du grand. Le grand frère, c'est évidemment Sergio Leone, et puis les plus grands frères, les pères même, c'est le western américain. On peut clairement faire référence ici au western américain et au western très formaliste, très esthétique, très flamboyant, très baroque aussi, hein, de Sergio Leone, bien sûr. Et d'ailleurs, le train qui arrive, par lequel arrive Lingéré Ramatou est évidemment une référence au train de la modernité et de l'histoire en marche dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est ça, oui, tout à fait juste. Il y a Agnès qui dit un western américain sans l'ennemi commun que seraient les Indiens. Oui, c'est ça, c'est aussi un des points de marqueur. En fait, ici, l'ennemi, c'est soi-même. Et ça, c'est vraiment la question de Sergio Leone. C'est vraiment, pas de tout Sergio Leone, mais Il était une fois dans l'Ouest. Je pense qu'il y a peut-être un peu la grande référence. S'il y en avait une, en tout cas, dans le western italien ici, ce serait celle-là. C'est l'idée qu'en fait, le western moderne, c'est un western qui n'est plus là pour dire que les Indiens étaient les méchants. C'est un western qui a pris acte de ces génocides horribles et atroces sur lesquels le cinéma américain a fait spectacle. Un western qui dit, mais peut-être qu'en fait, nous sommes nous-mêmes la cause de notre propre perte. L'histoire en marche de la modernité et du progrès est une espèce d'histoire qu'on ne peut pas arrêter et qu'on ne sait pas arrêter. C'était l'histoire d'ailleurs d'Il était une fois dans l'Ouest. Alors, est-ce que le film a été bien accueilli à Cannes? Oui. Je ne crois pas qu'il ait été primé, mais il a été bien accueilli à Cannes et il a été notamment très apprécié par les cinéastes eux-mêmes. Martin Scorsese en faisait beaucoup d'éloges, à raison évidemment.